Philippe Le Caplain.
Depuis une demi-heure, la France est confinée jusqu'à demain matin 6h, c'est le couvre-feu. Et le confinement est total à Dunkerque et sur la Côte d'Azur, ainsi que dans le Pas-de-Calais, mesure annoncée avant-hier par le Premier ministre. Malgré les appels de nombreux experts pour remettre le pays sous cloche, Emmanuel Macron n'a donc toujours pas cédé. Pas de confinement général, comme celui décidé voilà maintenant quasiment un an. Il n'empêche que la situation est difficilement supportable pour beaucoup. Rester chez soi, ne pas bouger, ne voir quasiment personne, cela, si vous me permettez l'expression, tape sur le système de nombreux Français. Pourtant, cela n'est rien en comparaison de ceux qui vivent, certains même quand il n'y a pas de coronavirus qui rôde, astronautes, sous-mariniers, scientifiques en Antarctique, navigateurs en solitaire, certains s'enferment loin du monde pendant des semaines ou des mois, et ils nous montrent que la vie continue malgré les contraintes et la restriction de liberté. Alors comment mieux tenir le choc physiquement, psychologiquement dans la période? Comment peut-on survivre au confinement? C'est la question du débat du jour sur RFI.
RFI.
Bonsoir Kozam.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien prisonnier et vous gérez le compte Twitter du syndicat des détenus de France. Bonsoir Stéphanie Isidestré.
Bonsoir.
Vous êtes-vous enseignante, chercheur en conception des systèmes spatiaux à l'ISAE Supaéro de Toulouse, d'où vous êtes en ligne justement. Et puis bonsoir à vous Jean Petroussi.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue clinicien, neuropsychologue à la Fondation Fondamentale qui travaille sur les grandes pathologies psychiatriques. Alors en ce moment, entre la météo et les restrictions liées à la pandémie, il y a de quoi avoir le moral en berne. Selon l'étude Swiss Corona Stress Study, 3% de la population présentait des symptômes dépressifs sévères avant la crise du Covid. Cette proportion est passée à 18% au mois de novembre, 6 fois plus. Et selon Santé publique France, les états anxieux ont fortement augmenté lors du dernier confinement, touchant 20% de la population. Les états dépressifs ont doublé entre septembre et novembre. De nombreux experts appellent nos autorités à prendre donc cette situation au sérieux. Pardonnez-moi, Jean Petroussi, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres et comment cela se traduit-il dans votre quotidien?
Alors, concernant les études, effectivement, on a des chiffres qui montrent qu'il y a une détresse psychologique qui est plus importante. Maintenant, il faut relativiser. On n'a pas assez de recul par rapport à ces phénomènes-là. Mais effectivement, on a l'idée que certaines populations ont pu être plus atteintes que d'autres, que certains Français ont pu résister mieux que d'autres, et qu'on n'est pas tous égaux par rapport au confinement.
Les étudiants particulièrement touchés avec pas d'études à la fac, on reste dans sa chambre matin, jour, nuit et on ne peut pas avoir de petit boulot.
Voilà, donc les étudiants typiquement, c'est une problématique qui est venue un petit peu plus à la rentrée avec le deuxième confinement, mais effectivement les étudiants cumulaient les difficultés, que ça soit sur le plan personnel, social, affectif, mais aussi économique avec cette précarité qui accentue finalement la détresse psychologique.
Et vous avez contribué à créer une plateforme qui leur est particulièrement destinée.
Voilà, avec la Fondation Fondamentale et la région Île-de-France, on a développé une plateforme qui s'appelle Écoute étudiant -Île-de-France.fr qui est à destination donc des étudiants de l'Île-de-France et qui leur prodigue du coup des conseils pour s'ajuster au mieux aux difficultés psychologiques et qui leur offre la possibilité d'avoir des consultations gratuites avec des psychologues spécialisés dans l'écoute et le soutien.
Alors, comme on parle d'étudiants, Stéphanie Lizidestré, l'ISAE Supaéro, c'est une grande école d'ingénieurs. Vous fréquentez des étudiants, vous réalisez d'ailleurs des expertises et des expériences avec eux. Alors, sans déflorer ce dont nous parlons dans la deuxième partie de l'émission, comment est-ce que eux, ils ont vécu? Est-ce qu'ils se sont mis dans une situation particulière pour mieux supporter la période?
Alors, la période, oui, a été complètement différente entre le confinement qu'on a vécu en mars et ce qu'on a vécu à partir du mois de septembre. Ils se sont retrouvés complètement isolés sur le campus parce qu'on n'a pas un campus ouvert comme les autres universités. Et on a pu mettre en place une expérience proche de notre recherche sur l'exploration spatiale.
Alors, quand on parle de confinement, s'il y a bien un lieu clos par définition, c'est la prison. Isolement, confinement, promiscuité, la prison qui s'est encore plus confinée pour confiner le virus à l'extérieur de l'établissement. Très concrètement, Kozam, je le disais, vous êtes un ancien détenu, vous gérez le compte Twitter du syndicat des détenus de France. Très concrètement, combien de personnes dans une cellule et quelle en est la surface en moyenne?
Alors, La surface en moyenne, elle est de 9 mètres carrés. Tout dépend finalement de la maison d'arrêt dans laquelle vous êtes, puisque quand on parle de surpopulation carcérale, on entend bien dans notre pays les maisons d'arrêt, donc les peines jusqu'à 2 ans ferme, donc ce qu'on appelle des petites peines, et les personnes en détention provisoire. On peut être, en fonction de notre catégorie pénale, de 1 voire 5 personnes dans une cellule. Il y a dans notre pays des cellules de 9 mètres carrés où vous avez 5 personnes. Et vous avez, au moment où je vous parle, 740 détenus qui dorment sur des matelas, à même le sol, dans nos prisons.
Donc
il y a une surpopulation.
Oui.
Oui, pardon.
Non, je vous en prie.
Il y a une surpopulation. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres maintenant depuis Dupond-Moretti, les chiffres sont devenus mensuels. Donc l'administration pénitentiaire communique mensuellement sur les chiffres de la détention. Avant, sous Belloubet, c'était tous les 3 mois. Et donc, on voit qu'il y a effectivement une progression depuis le premier confinement, surtout depuis le déconfinement, c'est-à-dire depuis mai, depuis le 11 mai, il y a une progression, malheureusement, d'un retour quasi à la normale, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si on continue sur une progression de rentrée d'incarcération, il y aura autant de détenus qu'avant le premier confinement.
Vous dites 4 à 5 personnes dans 9 mètres carrés. Et Stéphanie Lizy-Destré, vous connaissez bien ce qui se passe dans l'espace, une mission spatiale. C'est quel espace, combien de personnes dans l'ISS, par exemple, ou dans la navette spatiale quand elle volait encore?
Alors, avant de revenir à l'espace, je dirais qu'une chambre étudiante, c'est 9 mètres carrés aussi.
Avec une seule personne, pour le coup.
Avec une seule personne, mais ça vous donne déjà un ordre de grandeur. Les modules de la station, ils font à peu près 10 mètres de long et 20 mètres de diamètre. Donc on est sur l'ISS, c'est à peu près la taille d'un terrain de foot pour 6 habitants.
Oui.
Mais on
avec
est
beaucoup
en
d'instruments
oui,
qui occupent cet espace.
Mais on est, grâce à la microgravité, on se retrouve à utiliser les 3 dimensions et donc ça augmente énormément le volume habitable.
Revenons à la prison, Kozoum. Le confinement ou le confinement forcé, c'est le port du masque, c'est les gestes barrières. Les détenus aujourd'hui en France portent tous un masque matin, midi et soir en permanence.
Oui, absolument. Il y a 2 masques qui sont distribués par détenus lors de la livraison entre guillemets, lorsque le repas est servi, pardon, aux alentours comme à l'hôpital de 5h30. Le surveillant qui gère l'étage de baromètre, 2 masques par personne pour le lendemain. Le masque est obligatoire lorsqu'on quitte la cellule, mais seulement depuis octobre. C'est-à-dire qu'avant octobre, le masque était obligatoire pour les extractions judiciaires, lorsque des personnes devaient être portées devant un hôpital ou devant une juridiction, et lorsqu'il allait donc en rendez-vous médical. Mais au-delà de ça, dans les cours de promenade et dans les activités, pour peu qu'il y avait encore dans certaines maisons d'arrêt ou certaines prisons de façon générale des activités, le port du masque n'était pas obligatoire. Jusqu'à très longtemps, il n'y a pas eu de gel hydroalcoolique aussi en prison. L'administration pénitentiaire attestait que, comme il y avait un peu d'alcool dans le gel hydroalcoolique, l'alcool étant interdit en prison, ils estimaient que tôt ou tard, des détenus, alors ils nous prenaient vraiment un peu pour des imbéciles, mais ils estimaient que certains détenus pourraient détourner l'usage du gel hydroalcoolique pour en faire une constance addictive. Ce qui était un petit peu grossier, mais bon, comme l'administration pénitentiaire le fait souvent, nous infantilise et nous prend souvent pour des enfants. Mais voilà un peu l'idée de ce qui se passait en prison.
Vous le disiez, vous y faisiez allusion, moins d'activités, c'est-à-dire que plus de cours, plus d'interventions extérieures, plus de théâtre, par exemple, et des récréations, si je puis dire, en promenade limitée, voire interdite.
Alors, il faut savoir que la promenade, comme vous appelez ça gentiment, avec beaucoup de bienveillance, une cour de récréation, c'est un droit pénitentiaire. Donc, et c'est un droit qui a été instauré par le garde des Sceaux Bernard Terre. Et donc, l'administration est obligée de fournir, si ce n'est une heure de temps de promenade par détenu et par jour. Cela étant dit, même pour les détenus qui aujourd'hui, à date, sont en quatorzaine ou ont été cas contact, on ne peut pas leur supprimer la promenade. Donc la promenade a toujours lieu.
Certains ont refusé d'y aller de peur de contracter le coronavirus.
Oui, absolument. Il y a eu beaucoup de camarades, je dis entre guillemets camarades, puisque je fais toujours appel à l'usage du syndicat, mais il y a beaucoup de co-détenus en tout cas qui, effectivement, ont eu très peur de sortir en promenade. Ils ont eu très peur des contacts. Enfin, on est quand même dans un milieu extrêmement, avec beaucoup de promiscuité, extrêmement clos, même si la prison, par définition, est un lieu public, du service public, mais ça reste en moins un lieu fermé. Et donc, la promiscuité pouvait engendrer des situations complètement invivables. Dieu merci, ça a été très limité, non pas parce que l'administration pénitentiaire, dès le début, c'est-à-dire dès mars, a fait le nécessaire, mais parce que les détenus se sont responsabilisés. Il faut aussi parler de ça. Parce que l'administration pénitentiaire a tendance à se garder tous les lauriers, mais ce n'est pas le cas.
Est-ce que le fait que les prisonniers soient dans des établissements clos, par définition, est-ce qu'il y a eu une moindre peur d'être atteint par le Covid-19? Parce que finalement, il y a assez peu d'échanges entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a effectivement les surveillants et les familles, mais ça reste accessoire.
Ça reste accessoire. Les parloirs ont été annulés. Je reviens juste sur les activités. Elles ont été complètement annulées. Elles le sont toujours. Sur les parloirs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des parloirs. On est revenu à des parloirs hygiaphones, ce qu'il y avait donc avant Bain-d'Inter. Donc avec une espèce de plexiglas. Donc le contact entre détenus et visiteurs est complètement interdit. Il n'est pas faisable de toute façon techniquement. Et ceux qui interviennent en prison et qui viennent de l'extérieur quotidiennement, ce sont soit les agents de l'administration ou soit les personnes intervenantes en détention, telles que le médical ou les conseillers d'insertion de probation, donc ce qu'on appelle les CESPI. Aujourd'hui, on voit bien, aujourd'hui, donc au 5 mars, on voit bien que la contamination, elle se fait par les surveillants, par des surveillants qui ont tendance à ne pas vouloir porter leur masque de façon très rigoureuse, comme on le voit à l'extérieur avec des gens qui portent le masque sous le nez ou sous le menton.
Et pour ce qui est des proches, des familles, des avocats qui rentrent en prison, est-ce que de mesures particulières sont prises ?
Il y a des plexiglas, en tout cas avec les proches. Il faut savoir que lorsque, dans certaines prisons, la pose du plexiglas n'a pas pu avoir lieu, si on surprend le détenu toucher le visiteur extérieur, donc, eh bien, c'est une suspension de parloir immédiate. Donc, un arrêt du parloir immédiat et une suspension qui peut aller jusqu'à 2 mois. C'est arrivé, ça arrive encore tous les jours. Avec les avocats, il y a aussi des plexiglas. Les avocats, évidemment, respectent ces gestes barrières. Donc, voilà.
Le confinement, dans le confinement, Jean Petrucci, cela aggrave, ça exacerbe ce sentiment d'isolement, puisque là, il n'y a pas eu, ou il y a eu beaucoup moins de contacts avec les proches, par exemple. Et en tout cas, plus de contacts physiques.
Ça, c'est certain que on a peu de données chiffrées sur ce qui s'est passé en prison, mais en tout cas, il est certain que déjà que quand on n'a pas beaucoup de relations sociales, affectives, qu'on est très limité sur ce plan-là, et que finalement, on attend un petit peu ces petits temps de socialisation avec autrui, et que ces temps-là sont supprimés, forcément que ça va nous renvoyer à nous-mêmes et ça va augmenter forcément aussi bien le sentiment d'ennui que de frustration, que de détresse émotionnelle. Et pour peu qu'on soit un petit peu fragile, ça peut révéler des failles sous-jacentes.
Kozama, est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des détenus qui, à cause du confinement dans le confinement, je reviens à ça, à cause du Covid, ont carrément pété un câble, si vous me permettez l'expression?
Oui, mais je vous en prie, il y a eu effectivement des camarades, des co-détenus qui ont pété un câble parce que pendant très longtemps, on ne pouvait pas voir nos familles. On a été pendant 2 mois, mais bon, ils l'ont accepté. C'est-à-dire que lorsqu'on a vécu le confinement, comme les gens l'ont vécu à l'extérieur mi-mars, pendant 2 mois, finalement, c'était assez accepté. Il y a eu quelques mutineries parce qu'il y avait carrément des choses qui étaient effacées. C'est-à-dire que même la famille ne pouvait pas nous apporter du linge, même si on ne les voyait pas. Et encore aujourd'hui, le linge ne peut pas rentrer en prison parce qu'on suspecterait que le linge se transmet, que le Covid se transmet par le linge. C'est un petit peu audacieux pour la part de l'administration, mais effectivement, il y a eu des co-détenus qui ont littéralement pété un câble, qui ont détruit leurs cellules parce que c'était une forme de manifestation et de protestation vis-à-vis des mesures qui étaient imposées, je le rappelle, imposées par l'administration.
Jean Petrucci.
Oui, je voulais rappeler aussi que quand même la population en prison, c'est une population vulnérable. On sait dans les derniers chiffres qui ont pu sortir que 8 hommes sur 10 et 7 femmes sur 10 présentent au moins un trouble psychologique en prison, hors Covid en général. Donc ça veut dire qu'une période de stress comme le confinement, avec beaucoup d'inquiétude quant à la situation sanitaire, quant à sa santé, quant à la santé de ses proches, etc., ça peut majorer des difficultés qui sont déjà présentes. Donc c'est une population qui est vraiment vulnérable.
On parlait de contact avec l'extérieur. Stéphanie Élisée Destrée, je rappelle que vous travaillez sur les missions spatiales de longue durée. Le contact avec la Terre, avec les collègues, avec les proches, c'est indispensable, c'est organisé. Ça fait partie du cursus obligatoire pour maintenir le moral des astronautes, spationautes ou cosmonautes. Tout dépend de la nationalité de ceux qui vont tourner autour de la Terre.
Effectivement, donc si on regarde les missions spatiales dans l'ISS, les équipages sont en situation de confinement puisqu'ils n'ont pas accès à l'extérieur et même s'ils font des sorties, ils sont dans un scaphandre, donc ils sont toujours enfermés dans quelque chose, mais ils ne sont pas en situation d'isolation ni d'isolement. Ils sont en contact quasi en permanence avec les centres de contrôle sur la Terre qui les accompagnent pendant leur journée de travail, mais aussi avec des médecins, avec des psychologues qui les suivent et avec qui ils ont du temps privilégié. Et ils ont du temps avec leurs proches, avec leur famille. Donc, effectivement,
Il y a aussi tous ces petits trucs, le fétiche, le doudou, le saxo, les photos de famille. On en rit, mais c'est très important.
Non, je riais par rapport au saxo de Thomas. Parce que Thomas c'est Pesquet, vrai que
oui.
On a eu la chance de, pendant sa première mission, il a joué avec la fanfare des étudiants de super-héros qui étaient sur le campus et c'était un moment très fort, mais c'est lui qui l'a choisi. C'est-à-dire que les astronautes, ils ont cinq ou six, je crois, conversations privées, privilégiées pendant leur mission. Et il avait choisi d'avoir une connexion avec l'école et de jouer avec les étudiants. Donc c'est pour ça que je souriais. Mais oui, ils ont un bagage qui est limité, dans lequel ils peuvent emmener un certain nombre d'affaires, à condition qu'elle supporte les efforts au lancement, donc avec la fusée, mais voilà, ils peuvent emmener ce qu'ils veulent dans la limite de ce qui est possible d'emmener.
Alors, avant de regarder vers les étoiles dans quelques instants, revenons sur Terre et sur le confinement en prison. Il faut savoir que celui-ci est subi, hein, on ne va pas en prison pour le plaisir, mais parce qu'on y a été condamné pour des délits et des crimes, alors que celui de l'astronaute, par exemple, ou du sous-marinier, est choisi. La motivation n'est pas la même, et ça a une importance majeure. Jean Petrucci, je rappelle que vous êtes neuropsychologue. Hein.
Oui, le contexte est vraiment très important. C'est-à-dire que il faut quand même rappeler que dans cette crise, ce qui quand on choisit quelque chose, on est forcément acteur. Alors que quand on est dans une situation de passivité, finalement, on peut se sentir impuissant. Et c'est bien ce qui se passe dans cette crise. C'est ce qui différencie forcément par rapport aux astronautes, c'est que on n'a pas de repères et on est dans un contexte d'incertitude où finalement on n'a pas de cadre et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer finalement.
Vous écoutez le débat du jour sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain. Start
2 1 Et voilà, on repart vers l'espace parce que comment supporter l'isolement ? Bien, des astronautes y travaillent. Stéphanie Élisée Destrée, je rappelle que vous travaillez sur ce qui est aujourd'hui de la science-fiction et qui sera dans une vingtaine d'années, bien des missions spatiales qui exploreront le système solaire, des missions de très longue durée, c'est-à-dire, donnez-nous un laps de temps.
Alors, si on regarde, oui, une mission standard vers Mars, 6 mois aller, 6 mois retour et 6 mois sur place, c'est à peu près 520 jours, 540 jours de confinement.
Et donc ça, il faut s'y préparer, tout simplement se préparer au fait de tuer le temps durant 6 mois de transport, mais ce n'est pas aussi simple que cela.
Alors effectivement, il faut s'y préparer physiquement pour préparer son corps à... non seulement de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir aller où on veut, mais également se préparer psychologiquement. Il y a toute une discipline pour pouvoir accomplir toutes les tâches qui sont extrêmement complexes pendant une mission, se préparer aussi à être séparé de ses proches, de sa famille. Mais comme le soulignait l'interlocuteur
Jean Petrucci,
voilà, juste avant, qui est très différent dans une mission spatiale, c'est qu'on est dans un confinement qui est choisi. Et ce que l'on remarque dans nos études, c'est que les participants, donc soit des astronautes, des cosmonautes ou des personnes qui font des missions analogues, ont choisi de participer, ils ont choisi d'être confinés, et on voit que leur motivation, leur implication est largement supérieure aux moyennes, et ça fait toute une différence quant à leur capacité à supporter le fait d'être enfermés. Et enfin, comme c'était souligné précédemment, ils savent la durée de leur mission, même si elle est très longue, ils savent très bien qu'elle va avoir une fin, sauf incident,
on sait quand on part, on sait quand on revient.
Exactement.
Mais c'est un petit peu la même chose en prison, si je puis dire, hein, Kozoum. On sait quand on rentre, forcément, et on sait quand on sort, avec le système des remises de peine, la bonne conduite, etc. Donc, le fait d'avoir un objectif, d'avoir une issue, un bout du tunnel, pour ce qui est de la prison, c'est quelque chose qui aide à supporter la détention.
Alors, je mettrai quand même un bémol sur le fait que sur les 63 000 détenus environ à date, il y a quand même 18 500 détenus en détention provisoire. Donc, ils savent quand est-ce qu'ils sont rentrés, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'ils sortiront. Ça sera au beau vouloir de l'avancement de l'instruction.
C'est-à-dire qu'ils attendent leur procès.
Voilà, et il y a aussi des gens donc qui sont présumés innocents. Il y a parmi ces gens-là des gens qui, je pense, le sont vraiment. Donc, je rebondis très légèrement sur ce que vous disiez avant, sur le fait qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent commettre des infractions et qui donc savent que la résultante peut être la prison, mais beaucoup ne commettent pas de délits d'infraction dans ceux qui sont en détention provisoire et tombent en prison un peu par hasard. Hein. Il y a quand même des personnes qui sont dédommagées de leur détention provisoire. Mais effectivement, pour ceux qui sont condamnés et qui ont une peine, et je serai très court, ils savent quand est la fin du tunnel. J'ai l'impression qu'il y a un parallèle qui est fait effectivement avec les gens qui vont dans l'espace, qui est assez juste dans le sens où on est dans un lieu clos. Bon, après, les gens qui sont dans l'espace, ils ont quand même des moyens de communication, des moyens, madame le disait, avec beaucoup d'espace, ce qui n'est pas le cas quand on est en prison, entouré de murs, avec des cafards et des rats, parce que ça existe encore dans notre pays.
Jean Petrucci, je rappelle que vous travaillez sur les grandes pathologies psychiatriques. Le fait d'avoir une durée, de savoir combien de temps va durer le confinement, ce qui n'est pas le cas de ce que nous vivons, hein, quand on est acteur de théâtre, quand on est patron d'un salon de coiffure, etc. On ne sait pas jusqu'où on va, et c'est peut-être ça qui aujourd'hui est le plus difficile à vivre.
Oui, ça revient, hein, c'est cet état de lassitude et de fatigue psychologique que ça peut induire chez les gens, a fortiori quand on est dans un état de détresse émotionnelle et ou en difficulté économique. Je voudrais juste dire que rebondir sur ce qui a été dit, que peut-être la différence par rapport entre les gens qui sont incarcérés et les astronautes, c'est aussi l'issue du chemin. Oui, on sait quand ça se termine, mais on ne sait pas dans quelles conditions on va sortir. Quand on est astronaute, on sait qu'on va revenir, enfin, on espère qu'on va revenir. On va avoir une espèce de reconnaissance sociale, alors que quand on est incarcéré et qu'on ressort, on n'est pas forcément toujours bien accompagné. Et ça a été le cas pour les personnes qui ont été libérées lors du premier confinement pour vider un petit peu les prisons. Des interrogations persistent sur l'accompagnement qui a été fait pour ces personnes-là. Donc, l'issue n'est pas forcément la même.
Stéphanie Lizy Destrée, je reviens vers vous. Vous êtes donc chercheur en conception des systèmes spatiaux à l'ISAE, SUP Aéro. Vous travaillez donc sur la mesure, sur ce qu'il faut constater, ce qu'il faut corriger pour supporter donc un enfermement, un confinement. Vous travaillez d'ailleurs avec les Russes qui envoient des cosmonautes dans l'espace pour recréer la microgravité en moins, les conditions d'enfermement dans l'espace. Et vous participez à ces études avec les Russes, mais aussi vous allez du côté des États-Unis.
Oui, effectivement, on a la chance de pouvoir travailler avec les Russes et les États-Unis sur des missions qu'on appelle des missions analogues qui vont reproduire ce qu'il serait de vivre et de travailler pendant de très longues durées.
Alors racontez-nous ce qui se passe dans le désert de l'Utah.
Voilà, c'est ce à quoi j'allais venir. En fait, dans le désert de l'Utah, vous avez une base qui s'appelle la MDRS dans laquelle on peut conduire des missions pour des équipages entre 6 ou 7 personnes. C'est un désert qui est rouge, complètement isolé, à plus de 50 km du premier village, et dans lequel vous avez un ciel parfaitement pur, donc on peut faire de l'astronomie, et ça c'est très proche des missions spatiales. mais également vous allez vivre en autarcie, en autonomie, à vivre sur recycler votre consommation d'eau, ne se nourrir que d'alimentation déshydratée comme dans l'espace.
Et d'un point de vue psychologique, quels sont les retours d'expérience? Vous avez identifié ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour bien supporter le confinement?
Alors oui, tout à fait. On a justement des premières leçons en fait de ces missions analogues. Déjà, ce qu'on a observé, c'est que quand on vit en communauté comme ça, qu'il est très très important de préserver l'espace privé, même s'il est tout petit, ça peut être limité à juste un lit, mais quand la personne est dans son espace privé, il faut le respecter. Et en même temps, à l'opposé, il faut partager, c'est-à-dire avoir des moments de qualité avec les gens de son équipage, souvent autour d'un repas ou d'une activité récréative, et être vraiment dans le partage du moment. Il faut aussi garder du lien avec l'extérieur, avec ses proches, avec ses collègues. Et aussi, il faut avoir une certaine hygiène de la gestion du temps de travail par rapport au temps de loisir, c'est-à-dire de l'autodiscipline, parce qu'on peut très vite continuer à travailler tout le temps et ne pas avoir des limites. Donc, il faut se garder des temps de travail, des temps de loisirs, des vrais week-ends. Et c'est ce qu'on modélise dans ces simulations-là. Et ce qu'on a aussi observé qui est très intéressant, c'est que c'est les personnes qui s'occupent des vivants dans ces simulations. Donc, ça peut être des plantes, ça peut être des animaux. Ce sont ceux qui supportent le mieux le confinement.
Ne pas subir le confinement, c'est donc être actif. Ça veut dire s'organiser, se créer des repères, se créer des contraintes, Jean Petrucci.
C'est se créer effectivement des repères, c'est garder un rythme finalement, garder le rythme biologique, conserver le rythme du temps, le temps personnel, mais le temps aussi social, le temps du travail et le temps du repos, comme ça a été dit. Le temps aussi où on est dans l'intimité et le temps où on est dans la collectivité. C'est vraiment important de respecter cette frontière-là pour favoriser justement l'équilibre psychologique.
Il faut, par exemple, se sentir investi d'une mission, on l'a évoqué tout à l'heure, s'imposer une routine, se donner un cadre, prendre soin de soi et ne pas compter les jours. Ça ne doit pas être très évident, parce qu'en mer aussi, malgré les grands horizons et les grands terres, il est question de confinement. Le Finlandais Harry Uusela vient de passer 116 jours sur son voilier, dernier concurrent en lice du Vendée Globe. Il est arrivé ce matin au sable d'Olonne et lui, il ne savait pas qu'il allait mettre 116 jours. Donc le fait de compter les jours, est-ce que ça aide ou pas, Kozum, quand on est dans sa prison? Alors, on a l'image du mur avec les traits barrés tous les cinq jours. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ou pas?
Non. À un moment donné, les premiers jours, on les compte, pour être tout à fait honnête. Et puis, les semaines passant, on s'efforce de ne plus le faire. C'est psychologique, hein, mais je pense que M. Petrucci pourrait me le confirmer ou pas. Mais en tout cas, on essaye de passer à autre chose. On subit l'enfermement, on subit les jours qui passent. Mais on ne veut pas se le rappeler au quotidiennement.
Il y a, puisqu'on parle de marine, les grands spécialistes du confinement, alors eux, devant tout le monde, champions du monde, ce sont les sous-mariniers. Ils sont habitués à partir en mission de longs mois dans un espace très restreint, sans voir la lumière du jour. Ça, c'est très compliqué peut-être, par-dessus tout, quand on est confiné, c'est ce repère entre le jour et la nuit, Jean Petrucci.
Ça peut être un problème. Ensuite, il y a des techniques aujourd'hui pour garder des rythmes, pour gérer ces rythmes, malgré l'absence de lumière. Ensuite, l'idée, je crois, c'est ce qui ressort, c'est que il s'agit de créer une micro-collectivité et de pouvoir vivre en société, de pouvoir continuer à pouvoir communiquer avec autrui de manière adéquate.
Stéphanie Lizy-Destré, il faut savoir qu'à bord des sous-marins, il y a la lumière rouge qui signifie la nuit et la lumière jaune, blanche, pour le jour. À bord d'une station spatiale, comment on fait, puisque c'est jour et nuit en permanence, toutes les heures et demie, je crois, hein.
Oui, c'est ça. Vous avez l'orbite de l'ISS, c'est 90 minutes, donc voilà. Une heure et demie. Donc, il y a 16 levées et 16 couchers de soleil. Donc, effectivement, les astronautes sont calés sur notre fuseau horaire et ils ont leur journée. En fait, leur journée est très, très cadencée. avec chaque créneau horaire et à une activité et tout est planifié. Donc c'est comme ça qu'on garde en fait le rythme.
Et qu'on supporte le confinement. Merci pour vos témoignages, analyses, commentaires les uns et les autres dans ce débat du jour sur Radio France Internationale, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Le débat du jour a été réalisé par Jean-Philippe Thury.
L'épopée des musiques noires.
Depuis son premier album,